nouvelle édition des carnets hebdomadaires de Comaguerre après une suspension de nos activités pendant ce mois d'août. Alors on a fait un peu comme dans les radios publiques avec les salariés qui partent en vacances, on a un programme d'été. Nous, on n'a pas eu de programme d'été, mais on a continué à avoir les yeux bien ouverts et les oreilles bien ouvertes sur l'activité et les troubles du monde, ce dont on va vous faire part dans les minutes qui suivent. Parce qu'effectivement, ce mois d'août, et on pouvait s'en douter un petit peu à l'avance, a été marqué par des événements de grande importance, sur lesquels on va bien sûr revenir, qui étaient mûrs, qui étaient en préparation, mais qui ont pris un caractère et une ampleur qui n'étaient pas tout à fait prévisibles. C'est ce qui mérite que nous nous arrêtions sur ces sujets-là. Mais en attendant, je vais commencer par des nouvelles un peu plus petites que les BRICS et contre comme la crise du Niger. Des nouvelles un peu plus petites, mais qui ont leur intérêt. Je vais commencer par vous parler du premier tour, disons, des élections présidentielles en Équateur. Alors pourquoi des élections présidentielles en Équateur ? Parce que, en fait, le président sortant, qui était le successeur du banquier qui avait pris le pouvoir le coup d'après, je ne rentre pas trop dans les détails, avait décidé, pour éviter d'être traduit devant le Parlement pour des affaires de corruption, de suspendre l'activité du Parlement et d'organiser des élections présidentielles. Donc c'était une forme de démission sans être une démission. Il avait dit, ben voilà, je fais encore 6 mois et je m'en vais. Au lieu d'être... S'il était passé devant le Parlement en jugement, il aurait été probablement condamné à faire de la prison, etc. Là, il a dit, ben voilà, je suspends, j'arrête mon mandat dans 6 mois, et puis on fait des élections présidentielles dans 6 mois. Donc le premier tour s'est tenu. Et il est riche d'enseignements. Il est riche d'enseignements parce que ce premier tour a donné en tête 2 personnages, une dame et un monsieur, puisqu'il y a toujours un ticket, comme on dit, présidentiel. Donc Madame Luisa González et Monsieur Andrés Arauz, qui a été candidat à des présidentielles précédentes, qui sont les héritiers politiques de Rafael Correa. Héritier politique de Rafael Correa, en ce sens qu'ils héritent d'un personnage qui a été président de l'Équateur il y a de ça maintenant une quinzaine d'années et qui avait créé une rupture dans la politique équatorienne, puisque d'une part, il avait commis l'acte extrêmement répréhensible, je mets ça entre guillemets, l'acte répréhensible de fermer la seule base militaire des États-Unis sur le territoire de l'Équateur, ce qui ne se pardonne pratiquement pas, c'est un crime du vu de Washington. Et il avait aussi entamé une politique, disons, de développement, pour faire simple, dans les termes qu'on utilise habituels, et il s'était heurté, et c'est là que ça devient intéressant, il s'était heurté à une exposition des populations originaires, une opposition des Indiens, des tribus indiennes qui sont assez nombreuses dans ce territoire compliqué qui est celui de l'Équateur, puisque l'Équateur c'est petit, c'est à cheval sur l'Équateur, ça tout le monde le sait, et puis ça s'étend de la mer, donc de l'océan Pacifique, à des hauteurs où il y a la capitale, donc Quito, qui sont au-dessus de pratiquement de 3000 mètres, donc c'est un pays très compliqué, très vallonné, etc. Et donc il y a là, dans ce pays-là, surtout dans les montagnes, des tribus indiennes qui, en fait, sont porteuses d'une idéologie qui existe encore et dont on va un peu reparler, qui s'appelle l'anti-extractivisme. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot barbare ? Alors, anti-extractivisme, c'est une position qui a été élaborée par des tribus indiennes d'Amérique latine, en particulier dans l'Équateur. C'est vrai aussi au Chili, ça l'a été en Bolivie d'une certaine façon, consistant à dire... Le développement que nous apporte l'Occident sur un plateau, ça consiste à faire des trous chez nous pour sortir ici du pétrole, là du gaz, là du minerai de fer, là des diamants, etc. Et une fois qu'ils ont fait des trous, ils laissent les trous et ils s'en vont et ils nous laissent tout sale. Et c'est ce qui s'est passé réellement dans l'histoire de l'Équateur avant Coréa, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de sociétés pétrolières étrangères qui sont venues chercher du pétrole et qui après en ont mis un peu partout, ont laissé fuir, ont laissé des tuyaux crever, ont laissé des bidons abandonnés partout, avaient pourri la nature. Et donc les Indiens qui habitaient aux alentours trouvaient à juste titre que c'était bien joli le pétrole, mais que ce n'était pas pour eux et qu'on leur laissait que les ordures et les déchets après la bataille. D'où cette position extrêmement ferme qui était une position radicale, j'allais dire, anti-extractivisme. Toute société qui vient sur mon territoire, je parle comme si j'étais une tribu indienne, toute société qui vient sur mon territoire, je considère qu'elle va tout salir, tout abîmer et puis s'en aller une fois qu'elle aura gagné son argent. Et ça, je ne veux pas. Et donc la position est très très compréhensible. Mais cette population, cette position politique était forte dans l'Équateur. Et donc en fait, quand ils ont vu ces tribus indiennes qui étaient organisées politiquement, qui se connaissaient bien, quand ils ont vu Correa commencer à emprunter un chemin de développement en disant il faut absolument, si on a des ressources, quand même les exploiter à notre bénéfice et en essayant de protéger notre pays, ils ont considéré qu'ils se sont méfiés de lui. Ils lui ont compliqué la tâche au point qu'ils lui ont fini par lui faire perdre d'élections. Alors, ils se sont appuyés, ou plutôt, ils ont été appuyés par la droite qui voulait que Correa s'en aille, puisque c'était un leader progressiste. Donc, cette espèce de collusion entre les anti-extractivistes indiens des tribus et puis la droite qui considérait que l'Équateur lui appartenait, a fait que Correa est tombé. Et il est tombé dans des circonstances très douteuses, je vous le rappelle, puisque, en fait, il a présenté son bras droit, qui était un de ses amis politiques pour le représenté à la présidence de la République, c'était la succession normale, il avait fini son mandat. Ce monsieur qui s'appelait Lénine Moreno a été élu avec le soutien et avec le bénéfice de la politique de M. Correa, et du jour au lendemain, il a renié la politique. C'était un traître dans tout l'état possible d'être traître, c'est-à-dire hein, vous avez un ami qui vous met en avant pour prendre votre place, et puis une fois que vous avez la place, vous dites « ce que tu as fait, je ne veux pas le savoir, je ne te connais pas, hein, et je méprise tout le travail que tu as pu faire politique. » Ça, c'était Lénine Moreno. Bon, donc, les États-Unis, bien entendu, étaient ravis. Il a été ensuite suivi par un autre candidat un peu de la même veine qui s'appelait M. Lasso, qui était lui un banquier. Donc, en fait, effectivement, le coréisme et cette tentative d'avoir une politique de développement en Équateur avait été enterré totalement. C'est donc un énorme recul de cette politique d'un peu d'indépendance par rapport au maître américain. Et c'était, au contraire, une réaction et une reprise de contrôle par les États-Unis de la situation de l'Équateur. Alors, les pays limitrophes, alors aussi, ça ne t'a pas aidé, parce qu'ils avaient d'un côté la Colombie qui n'était pas celle du temps de Gustavo Petro, mais qui était la Colombie de Uribe et de Duque, donc ils n'avaient pas d'amis. Et de l'autre côté, côté péruvien, c'était pas mieux, et c'est toujours pas mieux. Hein. Donc, effectivement, ils étaient très isolés, ils sont petits, ils étaient coincés entre deux pays qui leur étaient hostiles et qui étaient beaucoup plus proches et beaucoup plus fidèles des intérêts de Washington. Alors donc on en arrive à cet épisode du premier tour des présidentielles dans la continuité du système. Et donc on a qui arrive en tête de ce premier tour une équipe avec à sa tête donc Madame Luisa González qui se présente comme l'héritière du coréisme. C'est-à-dire dit il faut qu'on choisisse un développement. Et l'événement nouveau c'est qu'effectivement la position et la coalition des intérêts des tribus indiennes s'est affaiblie. C'est-à-dire que leur position anti-extractiviste absolument radicale, qui voulait absolument aucun investissement nulle part, etc., s'est affaiblie, se sont un peu divisés entre eux. Et donc, en fait, l'équipe actuelle, qui pourrait gagner le deuxième tour, puisque là, ils sont arrivés au premier tour avec 33,5% des voix, ce qui leur donne une bonne chance pour la suite, pourrait gagner dans la mesure où ils n'auraient plus cette opposition des Indiens, puisque dans le cas de l'élection de Lasso, par exemple, le banquier a été élu avec les voix des tribus indiennes. C'est-à-dire, on est dans une situation paradoxale. Et qui apparemment est terminé. Bon. Et il ne reste plus en face de l'équipe coréiste, je fais simple, il ne reste plus en face qu'un des hommes les plus riches de l'Équateur, qui est le maître de la banane en Équateur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, il faut savoir que l'Équateur est le premier exportateur mondial de bananes. Et donc, M. Noboa, et le chef de la banane équatorienne, il en vend dans le monde entier, en particulier aux États-Unis, au Canada, etc., dans tout l'hémisphère nord américain. Et donc ce monsieur a beaucoup d'argent, et lui, ce qui l'intéresse, c'est la banane, exploiter les ouvriers agricoles de la banane, vendre des bananes et tout. Bon. Il est donc deuxième dans le scrutin. Il a 10 points de retard sur l'équipe coréiste, et on peut imaginer, on peut espérer qu'au deuxième tour, il n'arrive pas à ses fins. Bon. Voilà. Et donc, ça serait, et on en reparlera après le deuxième tour, je pense que c'est intéressant, ça serait effectivement d'une part la fin de l'anti-extractivisme radical qui fait que les Indiens, en fait, sur cette position-là, pouvaient torpiller n'importe quelle élection, alors qu'ils ne présentaient rien. Enfin, ils n'étaient pas capables d'avoir un candidat, ils n'auraient jamais été élus, mais ils bloquaient tout le processus politique par leur position radicale. et à charge pour les coréistes de trouver un modus vivendi qui soit valable non seulement pour l'Équateur, mais valable d'une façon générale. C'est-à-dire que être anti-extractiviste, c'est bien joli, mais si on est radical comme il l'était, ça veut dire pas de minerai de fer, pas de pétrole, pas de gaz, pas de lithium, pas de diamant, rien du tout. Et effectivement, alors on peut être très heureux dans ces montagnes quand on est un millier d'Indiens, la société contemporaine ne peut pas marcher comme ça. Autant obligé, et c'est vers là qu'il faut s'orienter, quand à minima il faut extraire un certain nombre de choses, d'abord remettre en état après la bataille, hein, recycler tout ce qui est possible de recycler, trouver des matériaux de remplacement. Il y a un énorme travail de recherche technique et scientifique, mais dire on sortira jamais plus rien de la Terre, c'est faire l'économie de 4000 ans d'histoire humaine, comme si on n'avait rien touché à rien. Hein. Alors, il faut qu'on gère en fonction de notre nombre, on est très nombreux, plus qu'avant, il faut qu'on gère en pensant que, et tout ça est fragile, mérite d'être équilibré, mais il ne faut pas dire on ne veut plus rien, sinon on ne veut plus rien, si on vit en tribu indienne, on vit mille dans la colline, on vit tout seul. Ce n'est pas comme ça que ça marche aujourd'hui, et ce n'est pas comme ça que l'espèce humaine est organisée. Bon, c'est pour ça que je voulais m'arrêter sur cette élection équatorienne qui est intéressante. Le deuxième pays sur lequel je vais dire quelques mots, c'est l'Irak. C'est l'Irak, puisque l'Irak, vous le savez, a subi deux guerres organisées par les États-Unis, deux guerres extrêmement violentes, alors qu'elles n'ont pas beaucoup à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que vous écrasez un pays sous un tapis de bombes, et après, quand il ne reste plus rien, fait que tout est cassé, le réseau d'eau, le réseau électrique, les stations d'épuration, les hôpitaux, etc., vous envoyez l'armée qui occupe ce qui reste des ruines du pays. Alors, il restait des Irakiens, ils n'avaient pas tué tout le monde, mais il ne restait pas beaucoup de façons de vivre correctement en Irak. On n'en est guère sorti depuis 2003. C'est-à-dire que ce pays vivote comme il peut. On arrive quand même à en extraire encore du pétrole parce qu'il en a beaucoup au nord et au sud, mais ce pays vit mal. Donc il vit mal, les équipements publics sont pauvres, il y a des affrontements entre bandes, il y a du banditisme, il y a de la pollution, et il est en train en plus de s'assécher, c'est-à-dire qu'il souffre énormément. Il a fait une partie de l'été plus de 50 degrés dans une bonne partie de l'Irak quasiment tous les jours. Hein. Les deux fleuves qui traversent l'Irak, les fameux deux fleuves mésopotamiens, le Tigre et l'Euphrate, manquent d'eau eux-mêmes, et donc on a un pays très très abîmé, occupé. Et la Turquie coupe l'eau en plus, puisque les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, ont leur source dans la Turquie, dans la partie orientale de la Turquie. Bon. Donc voilà un pays sur lequel il faudra qu'on s'apesantisse un peu, parce qu'on est au bout de 20 ans après le massacre militaire dont il a été victime, et on ne peut pas dire que ce pays soit sorti de l'auberge. Hein.
Dernièrement, il y a eu une conférence à...
Parle devant le micro. Voilà, tout est.
Tous les pays musulmans pratiquement étaient des représentants qui étaient présents et ils ont pris des positions assez.
Parle plus fort.
Voilà, assez musclé.
Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de retour. Attends, non, on a un problème technique côté cabine. Oui, allez aux nouvelles. Bon, on continue donc. Oui, donc effectivement, enfin, je ne sais pas, on reviendra peut-être sur cette séquence. Apparemment, on a un problème technique, on va aller prendre des nouvelles du technicien. Mais effectivement, on a un pays qui souffre énormément. Et donc, il y a une conférence qui a été organisée pour essayer d'organiser un avenir sans occupation militaire étrangère. Parce que le fond du problème, il est là. Hein, parce qu'occupation militaire avec des complices et puis des interventions militaires, la plus connue étant celle que... Oui, tout à fait. Oui, en plus les divisions entre chiites et sunnites qui ont été orchestrées autant que possible. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, on est en train d'essayer de régler notre petit problème technique. Il y a notre amie Louise qui est intervenue, qui est là. On est bon ? Vas-y, Habib, continue sur Bagdad, alors.
Je disais qu'il y a une conférence en Irak, dans une ville très, très connue, là où il est décédé l'imam Ali, à Kokofa, je crois.
Oui.
Bon, alors, bon, il y a cette conférence, donc le problème qui est posé...
C'est pas bon ? Ce micro marche pas, peut-être ? Alors, vas-y, repart.
Ouais, ça, ça marche. C'est bon. Ouais.
Ah. Bon, ok, merci Louise.
Oui, donc il y a eu ces conférences, surtout sur le problème palestinien qui est très très important, surtout l'occupation en fait, de Jérusalem-Est et tout particulièrement la mosquée de l'Aqsa. Et puis il y a eu aussi évidemment.
Ah, alors on a un changement de micro. On a un problème avec le micro. D'habitude, on va changer de micro.
Tu veux
mettre
ici ?
Ouais, non, ça va, c'est bon.
Voilà. On est désolé, on est en train de régler ce petit problème. Voilà, Habib change de siège et de micro.
Attends, je vais devoir changer de casque aussi.
Ah, changer de casque aussi.
Regarde.
Voilà. Et on va commencer. Alors, pendant qu'il est en train de faire ça, ça passe à l'antenne, là.
Ouais.
Je vais annoncer une prochaine émission qu'on a déjà organisée, c'est-à-dire que, pour bien utiliser notre temps de vacances radiophoniques, on a réalisé...
Oui, alors on m'entend bien ?
Alors vas-y.
Je disais donc à Kofa, en Irak, il y a eu une conférence des pays musulmans surtout. Il y avait des représentants, des savants musulmans qui sont réunis. Et le problème de l'Aqsa, Jérusalem, était posé. Et puis, le Coran qui a été piétiné et déchiré, la Suède et le Danemark.
Mm-hmm.
Bon, ces problèmes, donc ils ont pris une position assez très claire. Surtout au sujet de la Suède. Beaucoup de pays arabes, donc, ils ont convoqué l'ambassadeur. Mmh. Et puis même certains pays ont expulsé l'ambassadeur de Suède. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, cette fois-ci, au moins, il y a eu une position assez...
et commune de tous les Irakiens.
Ouais, voilà. Je vous laisse l'antenne, voilà. Allez-y.
Non, c'était bien de le dire, parce qu'effectivement, l'occupant états-unien a beaucoup utilisé la division entre les deux communautés religieuses, et il est temps qu'effectivement cette division soit surmontée, parce que l'avenir de l'Irak passe
surtout
par là.
Depuis qu'il y a eu la Chine qui a concilié les deux, l'Arabie saoudite, et le wahhabisme, voilà. Et le chiisme, ça c'était vachement important. Voilà. Et bon, donc il y a eu une position assez ferme de la part de tout le monde, il n'y a pas eu de division. Voilà.
Tout à fait. Ça c'est bien. Donc c'est un progrès qui est effectivement consécutif et qui est un des fruits de cet accord Iran-Arabie saoudite orchestré par le président chinois. Alors je reviens sur l'annonce que j'avais commencé de faire concernant notre future émission mensuelle de ce mois-ci, donc qui sera diffusée mercredi 13 de 20h à 21h30, et qui consistera à parler de la médecine cubaine. Alors pourquoi parler de la médecine cubaine ? Alors tout le monde sait, ou beaucoup de gens savent, qu'effectivement des équipes de médecins et de personnel soignant cubains sont envoyées par leur gouvernement dans des pays et sur des territoires où se sont produites des grandes catastrophes naturelles type tsunami, tremblement de terre et tout, pour compléter, pour aider, donner de l'aide aux équipes médicales locales. Ça, c'était connu. Mais il faut voir bien au-delà de cet aspect qui est très public et qui est international, c'est que si la République de Cuba a décidé de faire ça, c'est parce qu'elle a décidé que la santé était un élément central de sa politique sociale. C'est-à-dire qu'il est dit, et c'est réalisé à Cuba, que tout citoyen doit avoir accès à la médecine gratuitement, où qu'il habite, quel que soit son métier ou son absence de métier, quelle que soit sa catégorie sociale. Et ça, c'est écrit, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que tout Cubain, toute Cubaine, doit avoir accès à une médecine gratuite. Et ce n'est pas parce que c'est Cuba, on dit c'est un petit pays, c'est tout développé. Non, c'est une médecine de qualité, parce qu'en même temps que le gouvernement cubain a décidé que cette médecine serait gratuite, il a aussi pris les moyens pour que cette médecine soit de qualité, c'est-à-dire qu'il y ait une recherche médicale, qu'il y ait des laboratoires sur place, et que tout ça donne des moyens aux équipes médicales. Ce n'est pas simplement un monsieur qui est là à côté de vous et qui va distribuer que des cachets de paracétamol. Non, non, c'est beaucoup plus que ça. C'est une politique médicale, c'est-à-dire qu'il faut que toute la population soit soignée gratuitement et qu'il y ait les moyens pour la soigner. Donc c'est une politique d'État qui dure depuis maintenant 1959 et qui n'a jamais été abandonnée. Et c'est parce qu'ils sont à la tête de cette réalisation sociale, qui est un chef-d'œuvre à la limite pour un petit pays de 10 millions d'habitants, qui est un pays pauvre par ailleurs, ils font profiter les autres pays du monde qui ont des difficultés de leur savoir-faire, de leur expérience, et ils peuvent envoyer plusieurs centaines de médecins, d'infirmières et tout dans un endroit où il y a des problèmes qui n'ont pas été résolus parce que le personnel médical sur place n'est pas assez nombreux. C'est de ça donc dont on entendra parler.
Pays pauvre, voilà. Bien sûr, la cause, on la sait, tout le monde le sait, c'est l'embargo, ça fait plus de 50 ans. Voilà. Donc c'est un pays, ils ont voulu la détruire.
Voilà. Exactement. Alors ça, on l'a fait avec deux jeunes journalistes françaises qu'on a reçues ici à Marseille, que vous entendrez donc dans cette émission en différé le 13, Romane Frachon d'une part et Maïlys Kider de l'autre, qui ont donc réalisé des travaux, elles se connaissent, elles travaillent ensemble. L'une a réalisé un article, une enquête sur des médecins cubains. Alors c'était ni au Pakistan, ni au fin fond du Brésil, ni dans des endroits reculés de la planète, c'était en Calabre, c'est-à-dire dans le sud de l'Italie. Il s'est avéré, après le début de l'épidémie du Covid, que la région de Calabre, qui est donc le sud-est de la botte italienne, avait encore des hôpitaux, mais dans lesquels il n'y avait plus de médecins. Imaginez donc un pays d'Europe, un pays riche, où il y a des hôpitaux et où il n'y a plus de médecins pour soigner la population. Et donc le gouvernement, les autorités régionales de Calabre ont invité Cuba à envoyer des médecins, des infirmières, des aides-soignants et tout dans les hôpitaux de la Calabre avec l'accord du gouvernement italien parce que autrement il n'y avait plus de personnel médical. Alors on en arrive à des situations extraordinairement incompréhensibles puisqu'un pays riche, puisque l'Italie par ailleurs est un pays riche, où on a pu construire des hôpitaux et où il ne reste plus personne, aucun Italien pour les faire fonctionner. Et on est obligé de faire venir 500 Cubains qui font marcher les hôpitaux de cette région-là. Et qui sont là pour encore jusqu'en 2025. Ils ne sont pas là pour 6 mois. À charge pour le gouvernement italien de trouver peut-être une solution de remplacement quand ils seront partis. Bon. Donc ça, c'était bon de le faire savoir, parce que c'est tout à fait inattendu que dans un pays d'Europe riche, l'Italie, c'est la troisième puissance économique de l'Union européenne.
Le nord de l'Italie.
Alors c'est surtout le nord. Alors ça renvoie à des problèmes italiens, c'est-à-dire le nord est plus riche que le pôle, le sud. Le sud est un peu abandonné, mais il était tellement abandonné que les hôpitaux étaient vides. Bon. Ça, c'est le premier aspect donc, qui a été traité par Romane Frachon d'abord. Et puis l'autre aspect, c'est une synthèse, donc, qui est un livre qui a été écrit par Maïlys Kider, dont on reparlera, qui fait la synthèse entre cette politique de la santé, cette politique de la recherche médicale dans laquelle s'insèrent les médecins envoyés à l'étranger. Mais ils ne sont qu'une image. Et pourquoi ils peuvent le faire? Parce qu'on pourrait dire, ça serait quand même grave que eux qui sont bien soignés, ils envoient leurs médecins et que tout d'un coup, dans un quartier de la Havane ou d'une autre ville de Cuba, il n'y ait plus de médecins. Parce qu'on vous dit, ah ben, ils sont au Pakistan. Non, c'est pas ça que ça se passe. Pourquoi ça se passe pas? Parce que la quantité de médecins formés à Cuba est bien au-dessus de la moyenne. Alors, je vais vous donner un chiffre qui ferait comprendre. Écoutez bien et réfléchissez. Les statistiques mondiales qui sont établies par l'OMS ou par d'autres organismes, c'est le nombre de médecins pour 1000 habitants. C'est facile à calculer, c'est un ratio qu'on peut appliquer. Bon, c'est très simple. Cuba est le premier du monde. Il y a 8 médecins pour 1000 habitants. Alors, vous, ça ne vous dit rien. Mais quand je vous aurais dit qu'en France, il y a 3 médecins pour 1000 habitants, pas 7,5, pas 6, 3,5 contre 8 à Cuba, eh bien, vous direz, tiens, je commence à comprendre pourquoi quand je veux un rendez-vous avec un dermato, il me faut 6 mois. Hein. C'est de là que ça vient. Et je ne parle même pas, ce serait cruel, des États-Unis, où c'est un médecin pour 1000 habitants. On est à 1, 8 fois moins qu'à Cuba. Et bon, voilà. Donc la leçon est là derrière. C'est-à-dire que quand on a une politique médicale, sanitaire, comme l'a décidé de l'avoir Cuba, ça produit des effets pour soi et pour les autres. C'est-à-dire qu'on la met à disposition de qui en a besoin. C'est de ça que vous les entendrez parler. Donc je répète, ce sera le mercredi 13 de 20h à 21h30. Et on entendra donc ces deux jeunes journalistes françaises qui ont beaucoup de courage, d'abord beaucoup de savoir-faire, beaucoup de connaissances. Elles sont allées sur place plusieurs fois pour enquêter. Et puis, elles sont journalistes indépendantes, ce qui veut dire qu'en traitant des sujets de ce type-là, qui ne plaisent pas forcément aux grandes chaînes de télévision et aux grands journaux, elles prennent des risques professionnels. Non pas qu'on leur veuille du mal, mais simplement on ne leur donne pas de travail, c'est tout. Voilà. Puisqu'elles travaillent à façon, c'est-à-dire elles proposent des articles, on les leur achète ou on ne les leur achète pas. Voilà. Donc je tenais à faire connaître leur nom et à les saluer à l'avance, qu'on fera abondamment pendant l'émission, puisque je les ai reçus avec Habib la semaine dernière.
Oui. Et puis, oui. Elles ont proposé...
Voilà, des suites.
Oui, d'aller en Syrie enquêter sur...
Enquêter, la, oui, parle, sur, voilà, ils ne oui, parlent pas devant le micro.
Oui, oui, alors les deux filles, ça, elles m'ont demandé comment ça se passe pour le visa et tout, pour aller en Syrie enquêter sur 12 années de guerre. Comment voir la population syrienne, comment elle se comporte, comment elles arrivent à vivre malgré cet embargo qui est le plus dur, je pense, au monde. Voilà, la loi César, et puis tout particulièrement, moi, ce que je regrette en tant que Français, eh ben, je ne suis pas vraiment content de la politique française qui, elle fait de l'embargo plus dur que les Américains.
Ouais.
Voilà. C'est tout.
Alors, puisque tu m'en donnes l'occasion, Habib, je vais dire quelques mots sur la dernière invention de la Chambre des représentants de Washington, qui c'était le 11 mai de 2023, a passé une loi disant qu'elle interdisait à toute action officielle pour reconnaître ou normaliser les relations avec le gouvernement syrien conduit par Bachar el-Assad.
Ouais.
Voilà ce qu'on en est là. Donc, interdit de normaliser, c'est-à-dire à partir du moment où on aperçoit qu'effectivement la guerre pourrait prendre fin avec un rétablissement de la souveraineté du gouvernement sur le pays, l'éviction des forces étrangères de son territoire, la Chambre des représentants des États-Unis interdit à quiconque de normaliser les relations. C'est-à-dire, ça veut dire, je vais parler brutalement, continuer à leur pourrir la vie. C'est exactement ça que ça veut dire. C'est une application, c'est un développement de la loi César. Donc ça continue, il y a une espèce d'acharnement qui là n'est pas du tout thérapeutique, c'est un acharnement mortifère contre ce pays-là, alors qu'on commençait à avoir un peu d'espoir sur la possibilité de sortie de guerre. Je voulais leur dire, je l'avais prévu, mais tu m'en as donné l'occasion, et je t'en remercie. Continuons notre petit tour de... Notre petite promenade. On va passer par la Lune, deux minutes, puisqu'on a beaucoup parlé de la Lune ces derniers temps, et on a beaucoup parlé d'alunissage sur le pôle sud de la Lune, puisque comme nous, la Lune, elle est ronde, donc il y a un pôle nord, un pôle sud, ça c'est très très facile à comprendre, et donc sur le pôle sud, on n'avait jamais mis les pieds, puisque la seule exposition terrestre, c'était les États-Unis, et c'était plutôt sur l'équateur de la Lune qui s'était posé que sur le pôle sud. Alors, il y a eu deux tentatives qui ont eu lieu dans les deux semaines écoulées. Une tentative russe qui a échoué, on va y revenir, et puis une tentative indienne qui a réussi.
Ouais.
Alors, la tentative russe, c'était d'abord une volonté de la Russie de manifester son retour dans l'activité astronautique, à ce niveau-là, des recherches lunaires, qui n'a pas cessé par ailleurs, parce qu'il faut savoir que la plupart des vols pour envoyer des cosmonautes dans la station interspatiale, c'est des fusées russes qui les transportent, des fusées Soyouz, mais la Russie avait arrêté depuis 1975 tout travail de recherche et d'exploration de nouvelles technologies ou de nouveaux lieux de la Lune. Bon. Donc, elle avait préparé un module qui devait se poser sur le pôle sud. Ouais. Bon, le module n'a pas réussi à se poser, il s'est écrasé par terre, donc l'opération est terminée. C'était une opération avec de petits moyens, c'est une opération, une espèce de redémarrage des activités scientifiques de l'autorité russe astronautique, mais il y aura probablement des suites. Par contre, effectivement, l'opération indienne, qui a eu lieu 8 ou 15 jours après, a réussi, puisqu'il y a effectivement un alunissement d'un module sur le pôle sud. Voilà. Alors, ça a été l'occasion, d'ailleurs, en Inde, d'un enthousiasme nationaliste extraordinairement fort, comme une espèce de... pas de grande revanche, mais arriver presque à égalité avec la Chine, arriver donc tout de suite, enfin, 8 jours après l'échec russe, c'était encore un motif de fierté supplémentaire. On est content que le concurrent ait raté son coup. Et donc, il y a eu effectivement une explosion nationaliste extrêmement forte, ce qui ne peut pas cacher qu'au niveau de la recherche et de l'astronautique, l'Inde est encore assez loin et des États-Unis et de la Chine. La Chine qui elle-même a mis en place une station interstellaire qui fonctionne, qui envoie des fusées à jet continu, enfin, qui est en train de prendre beaucoup de l'avance dans tous ces secteurs-là de l'astronautique. On en reparlera, ce n'est pas l'occasion d'en parler aujourd'hui. Mais c'était bien de le rappeler parce que ça a été... Alors, c'est l'histoire de conquête de la Lune. C'est pas l'avenir de l'humanité. Non. Mais en même temps, ce que ça représente dans l'imaginaire collectif, et ça a été utilisé comme ça dès l'arrivée des cosmonautes états-uniens sur la Lune, ça donne un prestige particulier au pays qui le fait. Et il y a toute une opération de relations publiques, de satisfaction nationale qui se joue là-dessus, c'est vrai. Il ne faut pas que ça cache qu'effectivement, on ne vivra pas de l'eau de la Lune ni de quoi que ce soit de la Lune. L'humanité, c'est trop petit pour nous. Mais il y a un besoin qui est constant dans la réflexion humaine de mieux connaître tout ce qui nous entoure. Effectivement, on commence par effectivement la Lune. Même on commence pas mal à connaître Mars aussi. Et puis, on veut en savoir plus. Mais ce n'est pas là que doit se concentrer toute l'intelligence et toute l'énergie humaine. C'est simplement, on aime savoir, on aime comprendre. Et donc, quand on a les moyens de le faire, on le fait. Et il y a beaucoup de pays qui n'ont pas les moyens de le faire. Ceux qui ont les moyens le font. Voilà. N'en disons pas plus à ce niveau-là. Et c'est le moment d'en venir au sujet central du mois d'août. C'est clair, puisque ça s'est passé la semaine dernière, mais c'est effectivement le sujet central du mois d'août. Et ça va le rester quand on aura mesuré la totalité des implications, parce qu'on ne fait qu'à peine commencer de comprendre ce qui est en train de se... ou ce qui s'est passé. Alors, ce qui devait se passer, c'était l'annonce donc du sommet des BRICS à Johannesburg, organisé par la République sud-africaine. Alors, les BRICS, je le rappelle, donc c'est 5 pays qui se sont d'abord réunis à 4, à savoir le Brésil, la Russie, la Chine et l'Inde, d'où le nom BRIC. Et puis S, ça s'est décidé l'année d'après, donc en 2010, quand l'Afrique du Sud s'est ajoutée au groupe. Alors pourquoi le S? Parce qu'en anglais, c'est South Africa, hein, d'où le South. S. Ouais. Autrement, en français, ça aurait été Brica, mais Brica, ça faisait bric-à-brac, on ne l'a pas pris. Donc, on a gardé BRICS, c'est très joli comme ça, et c'est connu comme BRICS. Mais ce qui est intéressant de regarder à cette occasion, c'est qu'on attendait... Alors, il y a déjà eu, depuis 2009, tous les ans, il y a un sommet des BRICS. Tous les ans, les présidents ces pays-là ou les chefs des gouvernements se réunissent, se voient, discutent de problèmes communs, etc. Mais on n'en avait pas pris l'exacte mesure. On en avait pris d'autant moins la mesure qu'il y a eu des doutes, j'en ai eu moi-même à ce moment-là, quand j'ai vu Bolsonaro arriver au pouvoir au Brésil, je me suis dit, lui, il travaillait avec les Indiens, les Chinois et les Russes, vu le bonhomme, il va pas vouloir. Et en fait, Bolsonaro a compris qu'il y avait quand même un intérêt qui n'était pas que le sien, mais un intérêt de l'économie brésilienne pour rester dans ce groupe qui est important. Pourquoi ? Alors, je cite un fait très très simple. Pourquoi ? Le Brésil est un des premiers producteurs mondiaux de minerais de fer. Ouais. La Chine, qui est le premier producteur mondial d'acier, importe massivement du minerai de fer, beaucoup du Brésil, une partie de l'Australie. Et donc, effectivement, les relations économiques à ce niveau-là sont extrêmement intenses et indispensables, et pour l'un et pour l'autre. Hein. Ouais. L'un pour vendre son minerai, l'autre pour fabriquer son acier. Il faut que je vous donne une idée quand même de ce que c'est que la domination de la Chine sur le marché mondial de l'acier. La Chine produit tous les ans 1 milliard de tonnes d'acier. Le producteur numéro 2 d'acier dans le monde, c'est l'Inde, qui fabrique 150 millions de tonnes par an, 6 fois moins. Hein, vous voyez l'écart. Hein, donc la Chine, c'est effectivement, la Chine fait de l'acier pour le monde entier aujourd'hui. Bon, ça, c'est juste pour éclairer le type de rapport qu'il y a derrière ces pays-là. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a assisté donc à ce qui était prévu, à l'élargissement des BRICS. C'est-à-dire que le rassemblement de ces pays, donc nombreux, peuplés, l'Afrique du Sud étant le moins peuplé des cinq, effectivement, a fait penser qu'il y avait là une possibilité de créer un monde où le développement serait plus important et un monde qui ne serait pas celui des riches. Et on a vécu ça, on l'a présenté, c'est des effets journalistiques simples, en disant « c'est l'anti-G7 ». Le G7, je rappelle, c'est la coalition des blancs riches, hein, qui sont les maîtres du monde ou qui veulent l'être. Bon. Mais on a présent. Et en fait, il faut bien. Je pense qu'il faut sortir de cette idée-là. Ce n'est pas la concurrence. C'est une autre façon de gérer les relations internationales. C'est-à-dire où il n'y a pas un gros avec ses suivis, puisque le G7, c'est les États-Unis et tous les petits qui le suivent autour, hein, qu'ils soient le Canada ou le Japon, etc. Là, c'est une autre façon de concevoir les relations entre États, des relations bilatérales. On a des intérêts communs, on les discute, et puis on a une position commune, et c'est ça qui va devenir le grand changement. On a une position commune sur les affaires du monde, et on ne veut pas que dans les affaires du monde, ce soit les gens du G7 qui décident de tout.
Exact.
Hein, des financements, du choix des projets, de telle et telle chose, etc. Ça, c'est ça qui est en train de se jouer. Alors, il ne s'agit pas de... Il n'y a aucune volonté de détruire le G7. Chacun des pays du G7 peut vivre sa vie. Là, la France aussi, il n'y a pas de problème. Il s'agit de dire, on ne traite plus de la même façon. On parle d'égal à égal. On regarde les intérêts communs et on essaye de les faire avancer en commun. C'est ça qui est en train de se jouer. C'est ça qui commence à se comprendre. Et la première décision d'importance, ça a été de dire, on accepte un certain nombre de pays qui sont décidés à jouer avec nous le même jeu. Ce qui fut fait. Alors, on ne savait pas qui allait être choisi, on ne savait pas de critères. Les BRICS en avaient parlé entre eux, mais ils n'avaient pas fixé des critères. Et on a vu qu'ils avaient choisi un certain nombre de pays. C'est très intéressant d'en faire la liste et de les analyser, en gros, un par un. Le premier, je les prends par ordre alphabétique, ben pour faire simple, c'est l'Argentine. Alors, l'Argentine est dans une situation économique assez fragile, disons, avec une très très forte inflation, situation politique très très complexe. Mais l'Argentine, si vous regardez le continent sud-américain, quand vous ajoutez le Brésil et l'Argentine, vous avez les deux plus gros États, la plus grande supériorité, et les deux plus grands pays. Ouais. Le Brésil étant relativement dans une meilleure santé, et puis étant dirigé maintenant par Lula, ce qui fait qu'il joue plus facilement le jeu que ne pouvait le jouer Bolsonaro. Donc ça, c'est très positif et ça donne donc une place particulière à l'Amérique latine. Et c'est une leçon, c'est-à-dire que ces deux pays, autant le Brésil que l'Argentine, ont des relations suivies de longue date avec les États-Unis. Ce que ça veut dire, ça ne veut pas dire qu'ils ont décidé de mener une coalition militaire. Ce n'est pas du tout ça l'idée.
Pas du tout, non.
Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de dire, quand nous avons des problèmes pour développer l'Argentine et le Brésil, on en discute entre nous. Si on peut céder l'un d'autre, on se détaille l'un d'autre. Et ce n'est pas les États-Unis qui décident à notre place. C'est tout. Ça ne va pas plus loin que ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on va mettre tous les citoyens américains à la porte, qu'on va fermer l'ambassade des États-Unis à Buenos Aires. C'est pas du tout
non,
ça.
Pas du tout, ouais.
C'est pas du tout ça. Hein, c'est ce qu'on va essayer de nous faire croire que c'est. Hein, mais c'est pas du tout ça le jeu. J'ai donc commencé par l'Argentine. Ensuite, il vient deux pays d'Afrique qui ont des points communs. Ils ont surtout un point commun, vous allez voir, c'est très simple à voir, c'est l'Égypte et l'Éthiopie. Alors, quel est le point commun de l'Égypte et l'Éthiopie? C'est que d'une part, et bien entendu, ils sont en Afrique, ils sont juste le long de la mer Rouge, mais que surtout, ils sont aux deux extrémités du Nil, qui est le plus grand fleuve d'Afrique, et qui est l'alimentation en eau, et donc qui est la possibilité de faire de l'agriculture, de planter, de manger du blé, de manger des légumes, sur tout le territoire, sur tout le trajet, sur tout le...
Et puis il y aura des dialogues.
Voilà, il y aura des dialogues. Voilà. Ça veut dire, si on est au BRICS, ça veut dire qu'on se parle, on se comprend, et on ne se fait pas des misères les uns les autres.
Exactement.
Et quand on a un problème qu'on n'arrive pas à régler tous les deux, ben on va voir les copains russes ou les copains chinois en disant, aidez-nous, là, il y a un problème, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on trouve un terrain d'entente.
Exactement.
Et tout.
C'est ça
que ça veut dire. Ouais. La possibilité d'avoir des amis. On se met autour de la table, il y a un problème entre nous deux, il y a un problème des eaux du Nil, il y a un vrai problème des eaux du Nil, on en a déjà parlé dans l'émission. Eh bien, on va essayer d'élaborer des propositions. Si on n'y arrive pas tous les deux, on va mettre ça sur la table avec les trois autres, on va leur dire, ben voilà, là on a un problème, est-ce que vous pouvez nous aider à faire ci, à faire ça, est-ce que vous pouvez nous conseiller, envoyer des spécialistes, trouver un modus vivendi, etc. C'est à ça que ça va servir les BRICS. Ça ne va pas servir à créer un nouveau barrage en Éthiopie. Ça,
pas d'armes,
faire.
Pas de...
Alors, pas de problème militaire.
Ce
n'est pas du tout une alliance militaire, il faut bien le comprendre. Donc, Égypte et Éthiopie, j'en suis à trois. Le troisième dans l'ordre alphabétique, ou le quatrième, c'est maintenant, c'est les Émirats Arabes Unis. Alors, les Émirats Arabes Unis, on dit, ben oui, les Émirats Arabes Unis, ben, d'abord, ils ont du pétrole, ils ont de l'argent, hein, et puis, ils sont aperçus parce qu'ils ne sont pas... Alors, les émirs, comme on les voit sur les chaînes de télévision, avec leurs turbans, leurs grandes robes et tout, ça paraît un peu le Moyen-Âge. Ouais. En fait, il faut savoir qu'ils ont tous fait des études brillantes, qui sont passées par les meilleures universités américaines, que c'est pas des imbéciles. Hein. Oh, alors, ils savent qu'ils sont riches, et ils savent que du pétrole, ils n'en ont pas pour 200 ans. Donc il faut qu'ils prévoient l'avenir pour leur population. Dans des zones où le climat est difficile, il est fait sec, il n'y a pas beaucoup d'eau, etc. Il faut qu'ils prévoient un avenir pour leur population. Le même raisonnement est tenu par un autre des nouveaux membres des BRICS, qui est l'Arabie Saoudite.
Ouais.
Alors, il est tenu à une autre échelle, puisque l'Arabie Saoudite, c'est beaucoup plus grand que les Émirats Arabes Unis. Et c'est la même problématique, c'est-à-dire que l'Arabie Saoudite et les gens qui la dirigent se disent, c'est bien joli, hein, quand il n'y aura plus de pétrole, hein, il fait très chaud, il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qu'on fait ? De quoi vivent nos 40 ou 50 millions d'habitants ? C'est une bonne question que doit se poser tout gouvernement responsable. De quoi ma population va vivre dans 10 ans ? Pas demain matin, mais dans 10 ans. Donc il faut que je pense qu'un jour, il n'y aura peut-être plus beaucoup de pétrole, et donc je devrais faire autre chose. Bon. Et ça, ça va se décider.
Non, mais ça me donne une image un peu vraiment... par exemple, quand il y a eu le nouveau roi, là, Slimane,
oui, oui.
Et qui se présentait devant Trump, il l'a pris pour un imbécile. Oui, non, mais c'était.
Mais oui.
Là, il a bien compris que les Américains ne peuvent pas faire confiance. Ça, non, c'est sûr.
Exactement.
Donc, voilà, le BRICS, pour lui, l'a c'est trouvé. Ça.
Non, mais on nous a véhiculé cette image où il y a l'homme du désert avec son chameau et son turban et tout.
Idiot et bête. Hein.
Et idiot, il comprend rien, c'est ça. Non, c'est en plus, il a beaucoup d'argent, faut bien comprendre ça, et il réfléchit. Et il pense à la suite des événements, il a raison de le faire. Et puis le dernier venu, j'en ai oublié un, mais qui n'est pas rien, c'est l'Iran.
Ouais.
C'est l'Iran, qui est aussi, on le sait, un gros producteur de pétrole, hein, et qui s'est réconcilié, enfin, qui a renoué des relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite, et qui, de fait, et Habib y faisait allusion tout à l'heure quand on parlait des relations entre l'islam chiite et l'islam sunnite, l'islam chiite, donc, est défendu par l'Iran depuis très très longtemps, l'islam sunnite, il est défendu, et il a été défendu d'une façon très discutable par l'Arabie Saoudite, avec une tentative d'exporter une vision fondamentaliste, égoïste, dangereuse, coupeuse de tête, je vais le dire.
Exactement. Hein.
Bon, il faut sortir de ce moment-là. On est en train d'en sortir, c'est-à-dire admettre que l'islam, c'est une religion à l'égal du christianisme ou à l'égal du judaïsme, mais on ne convertit pas à l'islam à coup de fusil. Hein. Les gens qui pensent qu'ils doivent être musulmans sont musulmans. Ceux qui veulent ne pas l'être peuvent l'être et on leur coupe pas la tête. C'est ça qui se joue. Et bon, ce qui se jouait jusqu'à présent, c'est que quand un sunnite rencontrait un chiite, il lui coupait la tête.
Oui. Hein. Donc c'était un mécréant.
Oui, c'était un mécréant. C'était un faux musulman.
Ouais,
donc ça, il faut que ça cesse. Il faut évidemment que ça cesse.
Et maintenant, ils reconnaissent... je ne sais pas si tu es au courant, le Husseiniyat, c'est quoi ? C'est l'imam Hussein, le martyr.
Devant le micro. Devant
le martyr,
oui,
voilà.
Tout à fait. Bon, donc c'est ce passé-là qu'il faut assumer. Il va être assumé maintenant dans des conditions contemporaines avec des objectifs. Il y a 80 millions d'Iraniens qui doivent aller à l'école, qui doivent être formés, qui doivent avoir des activités économiques et tout. Il y a 50 millions de Saoudiens. Bon, et puis tout ça doit fonctionner sans s'entretuer. S'entretuer au nom d'on ne sait quel prophète.
C'est vrai, il y avait un différent dans la religion où les disciples de... du prophète, ils n'étaient pas connus par les chiites. Alors que maintenant, non, tout est revenu normalement.
Tout est revenu normalement. Voilà, donc voilà, j'ai fait le tour de ces pays. Alors, je m'arrête un peu sur l'aspect pétrolier.
Ouais.
Si vous ajoutez la Russie, l'Arabie Saoudite, l'Iran, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte même, secondairement, surtout pour le gaz naturel, vous avez le gros des exportateurs mondiaux de pétrole, qui ne sont pas dans le G7. Alors il faut bien que nous soyons conscients, nous, Français, qui avons la vue un peu courte à ce sujet-là, c'est-à-dire que c'est bien joli de dire qu'on est les meilleurs. Nous n'avons pas de pétrole. Hein. Et le pétrole, maintenant, il est entre les mains des pays des BRICS. Hein, parce que, alors bien entendu, on se satisfait à court terme de l'utilisation et de l'achat du pétrole de schiste et du gaz de schiste États-Unis, mais je vous signale que les principaux gisements de pétrole et de gaz de schiste États-Unis sont en train de diminuer leur production. C'est-à-dire qu'ils ont épuisé les
l'Irak. Hein.
Voilà. Et j'ajoutons l'Irak. Hein. Ouais. Et donc, en fait, tous les gros pétroliers sont maintenant associés dans un organisme qui s'appelle les BRICS. Ouais. À charge pour le G7 et les dominants de voir qu'ils n'en ont pas beaucoup. Hein. Et qu'en plus, vu ce que je dis pour le pétrole de schiste des États-Unis, ils n'en ont pas pour très longtemps. Ce qui complique les choses. Bon. Alors ça, c'est un des aspects...
C'est polluant.
Oui. Ceci, voilà, alors c'est le problème du pétrole, parce qu'il faut même s'y arrêter dessus, c'est qu'aujourd'hui, aucun moyen de transport de masse ne peut fonctionner sans carburant. Bon. Ouais. Alors, il y a des tas de choses qu'on peut faire sans pétrole, hein, c'est vrai, mais faire circuler des camions sans pétrole, on essaye de le faire avec des choses à l'hydrogène, tout, on n'est pas à l'échelle. Faire voler un avion sans pétrole, on ne sait pas le faire. Hein. Ouais. Faire naviguer un porte-container sans gasoil, on commence à savoir le faire, mais pour une petite minorité. Donc, le pétrole est le combustible le plus commode d'emploi qui soit trouvé pour les transports internationaux ou nationaux. Ça, c'est une donnée qui reste vraie et qui n'est pas changeable à vision humaine, disons. Hein. On verra plus tard. Et ça, c'est un des aspects des BRICS. Puis, il y en a d'autres. Il y en a un autre sur lequel je vais m'arrêter parce que ces nouveaux qui ont été approuvés sont l'antichambre, annoncent d'autres vagues, c'est-à-dire il y a d'autres candidats. Il y a au moins 11 autres candidats dont le dossier est à l'examen, parce qu'il faut savoir, règle très très importante, il n'y a pas quelqu'un des 5 qui dit « celui-là je le veux » et les autres disent « moi j'en veux pas ». Il faut qu'ils se mettent d'accord, tous les 5, pour dire « eux, on les prend ». On les prend parce qu'on a de bonnes relations avec eux, ils nous ont jamais fait de misère, ils nous ont jamais fait de coups tordus, donc on est d'accord pour les prendre. Il faut savoir à ce propos, par exemple, que la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a dit, en parlant du ministre des Affaires étrangères russe qui était à Johannesburg, elle a dit Sergueï Lavrov a joué un rôle colossal, c'est le mot qu'elle a utilisé, pour permettre à l'Éthiopie de rentrer. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand monsieur le Premier ministre éthiopien actuel, M. Abiy Ahmed, est arrivé au pouvoir, il était considéré par les États-Unis comme leur ami et qu'il lui avait donné, souvenez-vous du précédent Obama, il lui avait donné le prix Nobel de la paix pour bien montrer que c'était leur cheval dans la course. C'était lui leur favori. Et puis M. Abiy Ahmed, il a vu l'état dans lequel était son pays, qui est un grand pays. Il y a 110 millions d'Éthiopiens aujourd'hui, quand même, vivants. C'est un des pays d'Afrique qui a eu le plus fort taux de croissance ces 10 dernières années. Et M. Abiy Ahmed s'est rendu compte qu'il n'était pas entre les mains des États-Unis. Et donc, il a rendu hommage à la Russie et à la Chine, qui l'ont beaucoup aidé. Et donc, d'où la remarque de Moscou disant Sergueï Lavrov a joué un rôle colossal. Hein, ça veut dire qu'au départ, les quatre autres n'étaient peut-être pas très chauds. Il y avait peut-être dans les quatre autres un qui n'était pas trop d'accord. Hein. Bon, il s'est passé. Il y en aura d'autres, il y aura d'autres
sujets. Moi, j'étais étonné. Hein. Sincèrement, voilà. J'étais étonné.
Mais moi, j'ai pensé que c'était l'histoire du Nil qui avait été décisif. Il a dû dire, on ne se sortira pas de cette question du Nil s'il y a deux pays, la source et l'embouchure, qui se font la guerre. Ce n'est pas possible. Ça sera une catastrophe pour des centaines de millions. Hein. Il y a 110 millions d'Égyptiens, il y a 100 millions d'Éthiopiens à peu près. Au milieu, il y a des Soudanais, les pauvres, qui ne sont pas dans une très très bonne forme. Hein. Et donc, si on ne réglait pas la question de la gestion et du usage commun des eaux du Nil, on allait vers la guerre inévitablement.
D'ailleurs, même le Soudan a du pétrole aussi. Hein.
Oui, le Soudan a du pétrole. Il en a un peu moins, mais ça donnait lieu d'ailleurs à une division, etc. Bon. Donc il y a d'autres candidats qui vont venir. Alors, on a annoncé dans la presse avant qu'il y avait 40 manifestations d'intérêt. Alors, il faut prendre une manifestation d'intérêt pour ce que c'est. C'est-à-dire quelque part un ministre ou un président qui a dit « Ah, c'est intéressant ce que font les BRICS, etc. » Bon, pour l'instant, on n'en est pas à 40, mais on en est à une dizaine de pays qui ont déposé un dossier. Ce qui veut dire qu'ils se sont remis entre les mains des 5 autres, plus maintenant des 6, pour dire « Est-ce que vous nous acceptez dans le cadre de vos règles du jeu ? On ne se fait pas la guerre, on collabore, on s'échange des informations, on s'échange des experts, etc. Et on fait tout pour que nos populations puissent avoir un progrès social commun. Bon. » Parmi ceux-là, il y en a dont le nom a déjà été évoqué. On a parlé du Venezuela, on a parlé de l'Algérie. Tout ça va se faire puisque les six dont je vous ai parlé rentrent dans les BRICS officiellement le 1er janvier 2014 et que le prochain sommet des BRICS aura lieu à Kazan. En Russie, et que donc c'est à Kazan, donc dans un an en gros, qu'aura lieu l'examen des nouvelles candidatures. Toujours sur les mêmes bases.
Il y en aura beaucoup. Hein.
On ne sait pas encore qui ce sera. Et puis, pendant cette période où chacun, vous les candidats veulent être pris, puisqu'ils sont candidats, c'est qu'ils décident, c'est qu'ils souhaitent plutôt être rentrés dans le groupe, ils devront peut-être faire un certain nombre d'actes. Alors, il y a, par exemple, dans les conditions, il ne faut pas qu'un pays qui rentre dans les BRICS ait pris des sanctions contre un autre membre des BRICS. Suivez mon regard. Ça veut dire que ceux qui sanctionnent à tire-larigot à longueur d'année, on ne les veut pas. Hein. Vous ne pouvez pas dire « je suis ami avec un monsieur » et sans arrêt le punir pour des choses qu'il n'a pas faites ou qui ne vous conviennent pas. Hein. On respecte les choix de l'autre et on ne sanctionne pas. Alors effectivement, là, le principal accusé, on voit très bien qui c'est. Bon, ben c'est ce genre de procédure qui est refusée. Il ne s'agit pas d'une anti-alliance. Il s'agit d'un nouveau mode de relation entre les pays du monde. C'est ça qui se joue et c'est ça qui est très très important à comprendre. Parce qu'effectivement, on va nous jouer, ça se voit dans les petits graphiques qui ont sorti dans la presse occidentale. Alors on compare le G7 et le PIB des BRICS. Alors des BRICS 5, puis des BRICS 11. Et en fait, c'est pas très très intéressant, mais c'est pas là que ça se joue. Parce que ça, c'est un état, c'est un cliché à la date d'aujourd'hui du niveau de développement et du niveau de richesse. Mais ça ne dit pas comment on travaille ensemble. Et ça ne dit pas quels objectifs on a. Et ça ne dit pas surtout qu'on a décidé de ne pas se faire de misère, de ne pas se faire de coups tordus, de ne pas s'envoyer une expédition militaire, de ne pas préparer une révolution orange. C'est tout ça que ça veut dire. C'est tout autre chose. C'est un autre climat de travail dans le sens des populations. Autre chose que je voulais faire remarquer, tous ces pays qui sont là n'ont jamais été, pas plus les nouveaux venus que les cinq premiers, n'ont jamais été des pays colonisateurs. Et ça, c'est tout à fait décisif, hein, puisqu'au fond, quand vous regardez en face les pays du G7, tous les pays du G7 ont été, à leur façon, des colonisateurs. Alors les États-Unis sont arrivés en colonisateurs sur le territoire actuel, ils ont donc supprimé ou quasi supprimé les tribus indiennes, ils ont colonisé tout ce qu'ils ont pu, alors à leur façon, sans faire des colonies, mais enfin on sait que l'Amérique latine a beaucoup souffert de la main de fer des États-Unis sur leur territoire, bon ça c'est connu, je développe pas, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, l'Allemagne, le Canada... Bon, c'est vrai, le Canada, c'est plus une annexe des États-Unis qu'autre chose. Hein. Mais les autres ont été des pays colonisateurs. Alors, l'Italie et l'Allemagne, moins et tardivement, parce que la place était déjà prise. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas envie de coloniser, les Allemands et les Italiens. C'est que la France et la Grande-Bretagne avaient déjà tout pris. Enfin, il restait presque rien.
Les Allemands, ils avaient des colonies.
Voilà, mais ils les ont perdus. Ils ont perdu à la fin de la guerre de 14. Mais ils sont arrivés un peu tard, disons, sur ce qu'on peut appeler le marché de la colonisation. Ils étaient un peu en retard. Et donc, ils n'auraient pas laissé grand-chose. Oui, l'Allemagne avait pris le Tanganyika, donc la Tanzanie actuelle. L'Italie avait pris la Libye, à un moment, ils avaient tenté leur chance sur l'Éthiopie, ça n'a pas marché.
Ouais,
ils sont tombés sur un os. Mais ils sont arrivés trop tard et puis ils ont perdu la guerre de 14 et puis la deuxième guerre. Donc ils ont tout perdu, ils n'ont pas pu coloniser. Ah. Mais ils avaient bien envie. Hein. Il faut savoir, je le dis, ça a été dit et redit, que quand l'Allemagne a colonisé ce qu'on appelle, on appelait à l'époque le sud-ouest africain, donc qui s'appelle aujourd'hui la Namibie, l'Allemagne a utilisé des méthodes féroces d'élimination de tous les habitants de la Namibie. Ouais. Il suffisait donc, il arrivait une bande d'Allemands bien blancs, bien blonds, comme vous imaginez, et tout ce qui était noir était passé par les armes dans la journée. C'est ça la colonisation de la Namibie. Donc ça, on s'en souvient en Afrique du Sud aussi, puisque c'est tout à côté que ça s'est passé. Bon. Donc on a d'un côté ce bloc des colonisateurs, qui sont encore riches, c'est vrai, on ne leur enlève pas, et puis de l'autre côté, ceux qui n'ont jamais colonisé personne, qui disent, ben nous, on a notre place sur la planète, on veut que le monde fonctionne différemment, on ne veut plus de vos sanctions, on ne veut plus de vos ordres que vous recevez, on ne veut plus de vos cours pénales internationales et tout ça, ça ne nous intéresse pas. On veut travailler ensemble, en bonne intelligence, pour nous développer, pas pour nous faire la guerre, pas pour nous coloniser les uns les autres. Et je vais vous donner un exemple, parce que c'en est un que j'ai sélectionné, sur l'évolution, les positions des BRICS plus sur des questions internationales. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à Johannesburg, il y avait quand même une soixantaine de pays qui étaient présents. qui ont assisté au débat. Alors, ils n'étaient pas tous candidats, la preuve, hein, mais ils étaient là parce qu'on pensait que c'était intéressant qu'ils soient là. Il y avait, par exemple, le président cubain qui était là, et il y en avait d'autres. Et il y avait une délégation palestinienne. Et il y avait le président du Parlement palestinien. Bon, ça, c'était très bien. Mais ce n'était pas simplement très bien qu'il soit là. C'était très bien parce que derrière, il y a eu une déclaration des BRICS, une déclaration du Brésil, de la Chine, de la Russie, de l'Inde, de l'Afrique du Sud, éventuellement, on peut dire, des six nouveaux.
Moi, je crois qu'il y a 59 pays.
Qui étaient présents, oui.
Ouais.
Et qu'est-ce qu'elle dit, cette déclaration qui engage tous les États des BRICS aujourd'hui ? Elle dit qu'il doit y avoir deux États en Palestine.
C'est ça. Hein,
et qu'il faut reconnaître tout de suite l'État palestinien.
C'est ça, hein, c'est ça.
Et donc, ça, c'est pas simplement l'Assemblée générale de l'ONU où chacun fait son petit discours et tout. Non, c'est simplement toute une série de grands pays du monde qui disent maintenant, la comédie israélienne, ça suffit. La Palestine doit avoir un État. C'est exactement ce qu'a prévu l'ONU par sa résolution de 1948. La Palestine aura un État parce que nous le voulons. Et tous les gens qui sont avec nous le veulent. Hein, donc, à bon entendeur, salut. Et on aura, sur des tas de sujets de politique internationale, des évolutions de ce type-là. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a ce poids énorme de tous ces pays qui dit « il faut aller dans ce sens-là, on prend le temps qu'il faut, la question, la création, la réalité de l'État palestinien, c'est pas une affaire de 3 mois, mais on le veut, on va y arriver, et en plus, on a le droit pour nous, et on a les résolutions originelles du Conseil de sécurité qui vont dans notre sens. » Roselyne, on t'écoute.
Oui, est en cours aussi une demande. Vous m'entendez ?
Oui.
J'ai pas entendu, moi.
Est en cours actuellement une demande des Africains d'entrer au Conseil de sécurité.
Alors, il y a ça aussi qui a été fait. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé dans les débats au cours de cette assemblée des BRICS, effectivement, de la représentation de l'insuffisance actuelle du Conseil de sécurité. Puisque, en plus, les 5 membres permanents de ce Conseil de sécurité, vous le savez, à part la Russie et la Chine, qui sont donc les leaders des BRICS, si on veut, les 3 autres sont des Occidentaux qui parlent tous d'une même voix et tout le temps. Hein. Et donc, il y a des pays qui demandent depuis longtemps, d'ailleurs l'Inde il y a assez longtemps, le Brésil aussi, à rentrer au Conseil de sécurité en disant, sur des affaires qui concernent l'avenir de 8 milliards d'hommes, le poids d'un pays comme la France, je ne dis pas ça parce que je suis anti-français, mais le poids d'un pays de 60 millions de personnes dans l'avenir de 8 milliards de personnes, il est faible. Il faut le reconnaître comme étant faible. Hein. Et donc, il faut que les autres, ils en passent. Ça ne veut pas dire que la France doit être mise à la porte. Ça veut dire que d'autres qui sont importants pour l'avenir du monde doivent avoir leur place dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, c'est compliqué, mais s'ils sont tous ceux-là à le vouloir, ils finiront normalement par y arriver. Ça, ce qu'ils ont dit par rapport à l'ONU, c'est tout à fait clair. Ils disent, nous sommes tous d'accord pour le plein respect de la charte de l'ONU. Oui, mais l'ONU doit être améliorée dans son fonctionnement. C'est-à-dire, on reconnaît les principes de l'ONU, de respect, de non-ingérence, etc. Mais la façon dont l'ONU fonctionne ne nous donne pas satisfaction pour l'instant. Voilà ce que je voulais dire sur les BRICS, puis on y reviendra.
Une seule chose, pour la monnaie.
Non, j'ai pas évoqué la monnaie parce qu'en fait, effectivement, les journalistes occidentaux surtout ont dit il y aura une monnaie des BRICS. C'est pas la première tâche immédiate. La première tâche, c'est de dire il faut que 2 pays des BRICS puissent commercer l'un avec l'autre. Je parlais tout à l'heure du minerai de fer brésilien qui allait en Chine, sans être obligé de passer par une banque qui est à New York avec des dollars. C'est-à-dire il faut pour ça que les Chinois aient des dollars, qu'ils envoient les dollars à New York, que les dollars de New York aillent au Brésil pour que le minerai de fer puisse circuler. Bon, c'est ça qu'ils ne veulent plus. Et donc, ce qu'ils prônent pour l'instant, pour commencer, c'est des relations directes entre 2 monnaies et 2 pays. Voilà. Alors, les monnaies, ça s'évalue. Et puis, de toute façon, il y a des possibilités. Ça existe. Ça s'appelle en commerce international le clearing, le clearing bilatéral. C'est-à-dire, vous pouvez dire, moi, je vous ai vendu tant de millions de tonnes de minerai, ça fait tant à mon prix. Vous m'avez vendu tant de millions de tonnes d'acier, ça fait tant. Et puis, il y a un écart. Eh bien, je vous fais un chèque pour l'écart. Hein, c'est tout. Mais ça va pas plus. Ou alors, j'ajoute quelque chose en plus. Je vais vous ajouter du café brésilien en plus, si vous voulez. Hein. Donc, il y a des possibilités de négociation sans passer par l'échelle de mesure mondiale qui est le dollar. Donc, on dit, ça, voilà ce que ça représente pour moi, la tonne de minerai de fer, voilà ce que ça représente pour moi, la tonne d'acier. Et puis, on passe de l'un à l'autre voilà, et on discute. La monnaie, ce serait pour plus tard. Mais là, il y a déjà des possibilités donc, de travail en direct en passant par les monnaies nationales, qui va être d'autant plus facilité que la Banque de développement des BRICS, dont je n'ai pas parlé, qui est présidée donc maintenant par l'ancienne présidente brésilienne, Dilma Rousseff, va elle aussi emprunter de l'argent dans des pays des BRICS pour pouvoir le prêter à d'autres pays des BRICS, sans passer là aussi par le dollar. C'est-à-dire que si effectivement le Brésil veut acheter en Chine et qu'il n'a pas de yuan dans ses caisses, la banque pourra lui en prêter. Et à ce moment-là, il achètera avec les yuan que lui aura prêté la banque, il achètera de l'acier en Chine. Voilà comment ça va se passer. Après, il y aura peut-être une monnaie, mais pour l'instant, on n'en est pas là parce qu'ils veulent pas faire... Ils veulent pas, et c'est la même idée, ils veulent pas fabriquer une contre-ONU, ni fabriquer un contre-dollar. Ils veulent pouvoir vivre sans être obligés de passer par les conditions du patron. C'est ça la différence. C'est ça qui est très décisif. Voilà. Et donc, pour finir, mais on y reviendra parce que là, le sujet évolue de jour en jour. On a une grosse crise au Sahel avec donc le coup d'État au Niger, qui n'est pas réglé au moment où je vous parle, avec des velléités des menaces même guerrières, impériales, coloniales, que Macron a renouvelé hier. Vous savez que Macron a tenu hier, comme il le fait tous les ans à la rentrée, l'Assemblée des ambassadeurs, c'est-à-dire il réunit à l'Élysée les 165 ambassadeurs de France dans tous les pays du monde, et il a tenu un discours qui est d'un autre siècle. Un discours complètement retardataire, on ne se laissera pas faire, on est les meilleurs et tout. Ce qui est complètement ridicule. Hein. Et de là à dire, s'il faut envoyer des gens faire la guerre aux Nigériens, on les fera. Alors, prenez un des pays les plus pauvres de la planète et vous allez en plus aller le bombarder. Et ça va avancer à quoi hein, ça... Alors, bien sûr, on va nous parler de l'ambassadeur qui est enfermé dans l'ambassade et tout. Bon.
Mais, peut-être préciser ça, justement, que Macron veut absolument que l'ambassadeur de France reste voilà, au Niger, voilà. Alors que les Nigériens n'en veulent plus.
Ben non, on va partir, ils ont dit on ne vous veut plus, voilà. Bon, alors il reste parce qu'il ne veut pas sortir, et de toute façon il n'y a plus de vol aérien sur le Niger et tout, il ne partira pas
mais
comme ça.
Il va finir par partir parce qu'on lui a coupé l'électricité,
oui, c'est tout,
l'internet,
mais c'est un espèce de jeu idiot. Hein. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que Macron, dans ses délires coloniaux, parce que là c'était. Il voulait non pas envoyer les troupes françaises, mais il voulait envoyer les troupes ivoiriennes. Hein, avec son complice Alassane Draman Ouattara. Alors là, c'est très facile de dire hein, « Obéissez-moi, et j'ai quelqu'un qui fait le travail, qui vient tuer en mon nom. Hein. » Alors, on sait ce qu'est Ouattara, on sait que c'est son rôle, qu'il est arrivé lui-même à la suite d'un coup d'État organisé par la République française, que c'est un loyal serviteur et un profiteur caractéristique de la néocolonisation. Mais
il est prêt à intervenir, hein, soi-disant. Ouais. Oui, sauf qu'il a oublié que dans l'armée ivoirienne, il y a énormément d'autres Africains, des Nigériens qui voudront aller au combat.
Et puis voilà, tout à fait. Donc, ça, on y reviendra parce que c'est un sujet mûr et puis qui va évoluer dans les jours qui viennent
évoluer,
et tout.
Ouais,
mais effectivement,
vrai.
On a l'espèce de crispation que Macron a énoncé hier très vigoureusement avec un propos, je dis, qui date du 19e siècle, qui est à peine croyable. Hein. Et puis la réalité des faits, c'est ça qui fera évoluer les choses. Hein. Donc on en reparlera abondamment les semaines suivantes.
Il y a aussi les États-Unis qui, eux, ont un discours beaucoup plus
Alors les États-Unis étaient...
Qui veulent faire la guerre aux Russes en Afrique.
Bien sûr, mais les États-Unis ont une attitude un peu moins brutale que celle de Macron, parce que la France est plus visée dans les manifestations populaires au Niger, parce que c'est la France qui voit tous les jours. Hein. C'est Orange, c'est la BNP, ils voient que des marques françaises, les Nigériens, là où il y a des bureaux et des entreprises. Mais par contre, ce qui est effectivement clair, c'est que les opérations militaires de la France au Sahel étaient supervisées par l'armée américaine, par des avions qui survolaient, par des images satellitaires qui étaient fournies aux troupes françaises. Donc les troupes françaises, sans l'armée des États-Unis, n'auraient rien pu faire toutes seules. On leur disait où étaient les terroristes. Ils ne le trouvaient pas tout seuls, c'était les États-Unis. Là, il y a des terroristes. Et on a envoyé les soldats français qui se faisaient tuer parce que les États-Unis ont dit « Allez vous faire tuer là ». C'était comme ça que ça se passait. Alors effectivement, les États-Unis avaient... Dans leurs 56 bases militaires qu'ils ont sur le territoire du continent africain, ils avaient 4 bases au Niger. Mais c'est pas pour autant qu'ils y faisaient la loi. En fait, ils aidaient la France à continuer la colonisation. C'était très dit. Et en fait, la question des États-Unis n'est pas dans les manifestations à Niamey aujourd'hui. C'est pas central. Mais ils savent tous ça. Ils le savent beaucoup mieux que nous ne le savons. Parce qu'ils ont compris. Ils en ont vu des soldats américains. Ils ont vu des avions américains dans leur ciel et tout. Ils savent tout à fait ce que c'est. Et ils savent très bien que si la France a replié ses troupes coloniales depuis le Mali jusqu'au Niger, c'est parce qu'elles sont venues se se mettre à l'abri de la protection états-unienne. C'est ça que ça veut dire. Ça, ils le savent. Hein. Mais on commence par l'adversaire qui vous a fait le plus de mal aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que l'autre, on le trouve sympathique. Hein. Mais il y en a un qui vous a plus fait souffrir. C'est avec lui que vous avez des comptes à régler. Et c'est par là que ça va commencer. Voilà. On en reparlera certainement la semaine prochaine. Merci aux auditeurs. Merci Roselyne.
Merci Roselyne.
Merci Habib. Et à bientôt.
Merci Émile.
Merci Émile.